La session de cet après-midi va donc démarrer sur le thème on a appelé ça les ficelles du rire, dont on a déjà parlé ce matin. On a vu que ce terme avait été utilisé, mais dans un cadre assez précis. Cette table va être animée par Marie Duré-Pujol de l'Université de Bordeaux-Montaigne, qui va présenter le panel et animer le débat. Voilà, je lui laisse la parole et je vous souhaite un bon après-midi.
Bonjour à tous. Merci Jérémy, et d'ailleurs merci à toute l'équipe qui organise ce colloque. Vraiment bravo pour l'organisation et pour la diversité des thématiques, des tables rondes qui sont proposées pendant ces deux jours. Donc celle qui nous intéresse à présent s'intitule « Faire rire est tout un art, les ficelles de l'humour ». Donc en cette première partie d'après-midi, on va situer notre propos du côté de la fabrique de l'humour, même si, bien sûr, on va croiser certaines des thématiques et certains éléments qui ont déjà été abordés, d'autant plus que ce matin, pour finir la table ronde, on avait déjà quasiment enchaîné sur les ficelles de l'humour. Pourquoi est-ce que j'emploie le terme de fabrique, alors que c'est celui de ficelle qui est dans le titre ? Parce que la fabrique, c'est vraiment un terme qui renvoie aux pratiques, aux manières de faire et aux manières de penser. Et puis, je trouve qu'il invite à toute une série de questions sur, par exemple, comment fabriquer des objets et des formes comiques suivant les lieux où on s'exprime. Comment est-ce qu'on travaille sous contrainte, qu'il s'agisse de contraintes qui sont imposées de l'extérieur, par exemple lorsqu'on doit composer une chronique radiophonique toutes les semaines, on en a parlé là aussi rapidement ce matin, ou alors lorsqu'il s'agit de contraintes ou de règles qu'on s'impose. Ensuite, une autre question qu'on va croiser, c'est comment on prévoit ce qui est susceptible de faire rire ou non. Et par suite, comment est-ce qu'on fabrique le comique par rapport à soi, c'est-à-dire je pars de ce que je connais, par rapport à l'autre, en quoi ce que j'énonce est-il susceptible de le faire rire, et puis aussi par rapport aux autres humoristes. Donc c'est la question de comment est-ce qu'on marque son appartenance à un certain type d'humour, ou alors à certaines formes comiques, tout en cherchant à proposer quelque chose d'inédit. Donc là, j'ai lancé des questions de manière un petit peu abrupte. Ça le sera moins pendant la discussion. Ça va nous amener à nous interroger sur l'écriture, sur les discours et puis également sur le jeu et les performances comiques. Donc les axes de cette discussion vont s'articuler autour de l'humour pris comme projet et comme pratique, autour des ficelles de la fabrique également, sur comment est-ce qu'on pense les effets comiques, et puis on parlera aussi de la posture des humoristes et un petit peu de la posture des chercheurs aussi qui s'intéressent à cet objet. Donc pour en discuter, on accueille... Alors pour le coup, je ne vais pas poser de qualificatif, puisque ce matin, on a pu voir que c'était très compliqué de poser des catégories sur les statuts et sur les identités, donc je vais vous laisser vous présenter en fait assez rapidement.
Tous des micros devant vous.
Merci.
Par les dames. Alors, je vais commencer. Donc moi, je suis Yenma Etrane-Gerva, je suis maître de conférence à Paris 3, comme Nelly, qui co-organise ce colloque. Mais je suis en littérature comparée. Voilà. Si vous avez des questions sur la littérature comparée, je pourrais y répondre, mais c'est pas le sujet. Et donc, je travaille sur l'humour et en particulier sur la parodie et les formes d'ironie. Et évidemment, dans des corpus littéraires plutôt, au départ, et sur des siècles anciens, 17e et 18e siècle, mais avec des prolongements possibles jusqu'à aujourd'hui. Voilà.
Merci. Blanche.
Alors, moi, je m'appelle Blanche Gardin. Je suis ravie d'être invitée à un colloque sur le rire. Je pense qu'il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un colloque sur le rire. Donc, si on arrive à vous faire rire, je pense qu'on aura réussi un beau défi quand même. Parce que justement, je pense que le rire participe de l'oubli de soi. Et que donc, le prendre comme objet de discussion, c'est rarement rigolo. Donc, on va passer ce mauvais moment ensemble. Mais on va essayer de le rendre intéressant. Je m'appelle Blanche Gardin, donc je n'ai pas de problème à me considérer humoriste. Je suis humoriste. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant.
Vas-y, Vincent. Alors, moi, je m'appelle Vincent De Dienne. Je suis bourguignon. J'ai une formation de comédien, en fait, je suis comédien, et par un étrange concours de circonstances, je me suis mis à écrire un spectacle qui est plutôt rigolo, visiblement. Et donc, on m'a ensuite demandé de faire des chroniques à la télévision sur Canal+, dans l'émission Le Supplément, depuis l'année dernière, et également sur France Inter, dans le 5-7 l'année dernière et dans le 7-9 cette année. Voilà. Donc, je joue un spectacle rigolo, je fais des chroniques que j'espère d'être rigolote. Et pourtant, j'ai du mal à me qualifier humoriste. Donc, il y aura à un moment une confrontation avec Blanche Gardin sur... sur ce sujet, je pense.
J'aimerais qu'on revienne sur le mot rigolo aussi, mais on verra plus tard.
On y reviendra tout à fait.
Cocasse.
C'est bien. Je pense que cette table ronde sera polémique. On nous reprochait tout hier de ne pas l'être. Eh bien, on va l'être aujourd'hui. Jean-Marc Defailly, je suis professeur linguiste de l'Université de Liège, en Belgique. Et je ne suis pas philosophe comme c'est indiqué sur le programme. Je suis seulement linguiste. Mais on est tous un peu philosophes quand on s'occupe de comiques ou d'humour. On est tous philosophes, psychiatres, anthropologues. Parce que c'est un objet, on en parlera probablement tout à l'heure, c'est un objet qui oblige à l'interdisciplinarité, même si on veut le cerner par tous ses aspects. Et je suis d'accord avec ma voisine de gauche, le discours scientifique et le discours comique, c'est ça, le défi s'entendent comme l'eau et le feu. Donc soit on fait rire, mais là on ne sait pas l'expliquer parce qu'on n'est pas conscient de ce qu'on fait, quand on fait rire ou quand on rit, soit on explique le rire, mais ce n'est plus le rire puisqu'on l'explique. Hein. Je pense que c'est Voltaire lui-même qui disait que toute plaisanterie expliquée n'est plus plaisante. Donc l'objet déjà là, organiser un colloque, et ça c'est quelque chose que j'ai rencontré toute ma vie, tenir un discours scientifique, c'est-à-dire soi-disant sérieux, sur le comique est déjà par lui-même un paradoxe, dans la mesure où l'objet, une fois qu'on le considère de manière sérieuse, l'objet n'est plus comique lui-même. D'accord ? Donc soit on devient comique soi-même, mais ce n'est pas toujours bien accueilli dans les colloques scientifiques, soit on parle de quelque chose qui n'est plus comique, qu'il a été, qu'il sera peut-être dans d'autres circonstances, mais c'est vrai que c'est un véritable paradoxe. Ceci dit, ce n'est pas le propre du comique. J'imagine que c'est la même chose avec le plaisir esthétique et, si je peux me permettre, avec le plaisir érotique. Hein, le plaisir et l'analyse ne vont pas toujours de pair. Mais donc, cela pour nous soulager de nos scrupules de scientifiques. Voilà.
Je pense qu'on arrivera tout de même à avoir une très bonne table ronde bien stimulante. Alors, on va donc commencer avec ce premier axe. Donc, on va parler des pratiques et des projets comiques. Alors, une fois qu'on a posé le fait que l'humour ne peut pas se définir pour lui-même et que de toute façon, il n'y a pas de définition universelle pour parler de l'humour, le moyen vraiment le plus opératoire, en tout cas à mon sens, pour le saisir, c'est vraiment de s'appuyer sur ses pratiques et sur ses projets de celles et ceux qui le fabriquent et qui le pensent. C'est d'ailleurs ce qu'a proposé hier Océane Rosemary, par exemple. Voilà, donc c'est ce qu'on va commencer par faire aujourd'hui. Donc je vais commencer par une première question pour Blanche et puis pour Vincent. Est-ce que vous pourriez expliciter la manière dont vous pensez le comique dans vos pratiques personnelles ? C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans la phase d'élaboration de vos différents projets, donc théâtre, radio, télévision, cinéma, à quel moment est-ce que vous situez la nécessité de recourir à l'humour ? C'est une première question. Et la question qui suit, ce sera qu'est-ce qui vous a amené à choisir l'humour, la voie du comique, plutôt qu'un autre type de registre ?
Commencez par Blanche. OK. la première question, j'aurais du mal à y répondre parce qu'en fait, je n'ai pas, pas entendu. Non, je l'ai lu tout à l'heure. À quel moment on se dit tiens, à ce moment-là il faut faire un machin drôle. Le problème de ne pas pouvoir répondre à cette question, c'est qu'en fait je fais que ça de la comédie depuis que je me suis mise à écrire. Donc je suis tout le temps dans la fabrique du comique. Je suis jamais à aucun moment dans une fabrique de dramatique ou de donc il y a pas un moment où je me dis ah tiens c'est le moment où il faut mettre une blague. C'est que je suis tout le temps en train d'essayer de chercher. Je suis tout le temps dans la gymnastique pour aboutir à un effet comique en fait. Donc, c'est systématique pour moi. Ça, c'est pour répondre à la question.
Et alors, quand on arrive et qu'on se lance dans une carrière artistique, qu'est-ce qui fait qu'on s'oriente vers l'humour ?
Alors là, c'est pareil, on ne s'oriente pas du tout. Enfin, je parle pour moi, mais je ne me suis jamais orientée vers la comédie. C'est hélas la seule chose. Enfin, j'ai essayé de m'orienter vers différents types d'art. En fait, j'ai commencé des tas de choses. J'ai commencé à peu près tout, hein, des instruments de musique, la poterie, des traitements antibiotiques. J'ai à peu près tout commencé sans jamais rien finir. Ce qui fait que je sais à peu près tout faire, mais très mal. Mais c'est vrai que la comédie, c'est le seul truc dans lequel je suis restée constante. Dire de la merde, c'est à peu près le truc dans lequel j'ai été le plus assidue dans ma vie. Mais c'est pas quelque chose que j'ai choisi du tout. C'est quelque chose qui est venu à moi petite. Et je pense même savoir situer à quel moment j'ai compris que la comédie allait me servir dans ma vie. J'étais très jeune, je prenais des cigarettes. J'avais une famille de pompiers alcooliques, vraiment, où tout le monde est dans le déni de la clope et tout le monde dit c'est pas ça, la clope ça fait rien, etc. Donc, enfin, c'était une autre époque, hein, évidemment. Et je me rappelle que je prenais les cigarettes des mains de mes parents dans les dîners. Et je jouais au personnage adulte qui fume. Et en fait, ça les faisait marrer. Et puis moi, j'avais ma dose de nicotine, en fait. Donc, c'était un espèce de truc, une espèce d'échange de bons procédés. Et j'ai compris que je pouvais obtenir pas mal de choses en déclenchant le rire chez les gens. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour moi.
OK. Vincent ? Une histoire personnelle.
Alors, une histoire de clope, est-ce que j'en ai une ? Non, mais en fait, bah, moi, un peu comme Blanche, c'est vrai que j'ai du mal à penser le comique parce qu'en fait, comme c'est très très lié à mon histoire intime et à qui je suis et à comment j'interagis avec les autres et le monde et tout ça, que comme je respire, j'essaye d'être drôle. Alors, je ne dis pas que je suis drôle, mais en tout cas, mon élan est d'essayer d'être drôle. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça me semblait... C'est très lié pour moi à la politesse. À la politesse, pas à l'impolitesse, à la politesse. J'ai l'impression que essayer d'être rigolo, c'est une politesse. J'ai l'impression que c'est plus poli d'être drôle que de ne pas l'être. Et du coup, dans mon travail, quand on a commencé à me demander... quand j'ai voulu écrire un spectacle, par exemple, je ne me suis pas du tout dit qu'il allait être rigolo. Je ne me suis pas dit « je vais faire un one-man show ». J'ai écrit et puis je me suis dit « oh là là, mais là, ça fait déjà 5 lignes que j'écris. Donc, ça fait 5 lignes que potentiellement j'emmerde tout le monde et que je vais intéresser personne. » Et donc, je me suis dit « il faut absolument que ça soit rigolo ». Et du coup, mon rapport au comique, ça serait celui-là, ça serait. Et au moment où j'étais en train de terminer d'écrire le spectacle, je suis tombé sur une phrase de Baudelaire qui m'a éclairé, qui était le premier venu, pourvu qu'il sache amuser, a le droit de parler de lui-même. Et j'ai eu l'impression que c'était ça, toute mon énergie était celle-ci, de parler de moi-même parce que c'est le sujet que je maîtrise le mieux et que quand je parle même de quelque chose qui m'est étranger, j'en parle à travers mon filtre intime, perso, et avec mon cœur. Et pour que ça soit pas impoli ou pas boring, comme on dit en Islande, Eh bien, j'essaye que ça soit rigolo. Voilà. Donc, ça, c'était peut-être... J'ai répondu à la première, à la deuxième ou à aucune des deux, là ?
Bien.
Aux deux, ça va ? Voilà, bon.
Merci. C'est intéressant dans ce discours parce que vous énoncez qu'il y a quelque chose presque qui dépasse... c'est comme un peu le comique qui vous choisit. Alors que dans la recherche, on passe notre temps à construire les objets et puis à essayer de faire en sorte de comprendre pourquoi est-ce qu'on travaille sur le comique. Du coup, c'est la question que j'aimerais vous poser, puisque le comique à l'université, c'est quand même un sujet mineur qui est assez décrié, pas extrêmement valorisé non plus. Qu'est-ce qui pousse des chercheurs à s'intéresser au comique et à l'humour ?
Alors... J'aimerais bien dire la même chose que les deux précédents orateurs et dire que je suis née pour ça, etc. Mais un peu la démarche inverse, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que quand j'ai commencé mes études, j'arrive en maîtrise et puis on me dit il faut choisir un sujet. Alors, Et là, je regarde un peu le cursus universitaire. Je me dis, si je fais une maîtrise, un DEA, une thèse, j'en ai pour 7, 8 ans à finir tout ça. Autant que ce soit sur un objet quand même agréable, sur lequel je vais passer du bon temps. Donc, je pense que ça a joué quand même. Et puis, très précisément, moi, j'ai eu une sorte de révélation, en fait, quand je faisais mes études, quand j'étais en Cagne, qui est la découverte du roman anglais du XVIIIe siècle. Alors, j'invite tout le monde à lire des romans anglais du XVIIIe siècle. C'est passionnant. Et qui sont très, justement, au second degré, beaucoup. Et qui me donnait l'occasion à la fois d'étudier sérieusement la littérature, parce que voilà, ça permet de réfléchir à ce qu'est-ce que la fiction, etc. Et en même temps, d'avoir cet aspect plaisant de l'effet. Parce que ce qui m'intéresse, c'est l'effet aussi, l'effet comique, de la parodie en l'occurrence, puisque c'est sur ça que j'ai commencé. Et donc je me suis dit, bon, bah, je me lance là-dedans. Et puis généralement, on s'essaye, hein, on choisit un premier sujet en maîtrise, et puis si ça va, on continue, et puis si ça ne va pas, on change. Là, j'ai trouvé tout de suite le sujet qui me convenait, et avec suffisamment de niveau d'analyse possible et d'enseignement ensuite pour que ça reste très riche encore pour moi aujourd'hui.
Ouais. Alors, et pour un linguiste alors ?
Oui. Bon, je ne comptais pas aborder les choses de cette manière-là, mais pourquoi pas. Donc moi, j'ai commencé, je ne me suis pas directement intéressé au comique, je m'intéressais à l'analyse du discours et une occasion se présentait de faire un travail sur Alphonse Allais, qui avait été mis à l'honneur à l'époque par Umberto Eco, si vous en souvenez, dans son lector In Fabula. Il a utilisé des textes d'Alphonse Allais pour illustrer la présence ou l'intervention du lecteur dans un texte, et le texte comique étant en quelque sorte un exemple plus caractéristique que d'autres. Le lecteur participe toujours dans sa lecture à la construction du texte, mais encore plus particulièrement dans un texte comique, on a besoin de la complicité du lecteur, ne serait-ce même que pour le prendre à contre-pied. C'est ce que fait Alphonse Allais, dont on ne connaît malheureusement que sous forme hachée, abrégée. On ne connaît que les citations d'Alphonse Allais, mais il faut lire les textes entiers d'Alphonse Allais. Et Alphonse Allais est un précurseur de tous les romanciers, les nouveaux romanciers, notamment du XXe siècle. Et alors, justement, Umberto Eco mettait l'accent sur la créativité de l'humour. Et de fil en aiguille, j'ai fait ces travaux sur Alphonse Allais, je me suis petit à petit interrogé sur vraiment cette conception de l'humour, et notamment cette conception, je ne sais pas si on y reviendra tout à l'heure, sur la conception de la littérature comique. Qu'est-ce que c'est que la littérature comique ? Est-ce que ça existe ? Pour certains, ce qui est comique n'est pas littéraire. On dirait que le rire annule en quelque sorte le charme de la littérature, le plaisir esthétique, alors qu'ils peuvent être... le roman est né, que ce soit avec Cervantes ou Rabelais. Il faut rappeler, c'est Kundera qui le rappelle, que la littérature contemporaine, le romanesque, est né avec le comique. Ils sont indissociables, n'est-ce pas, l'humour et le comique. Et donc je me suis interrogé sur cette question-là, et notamment en tant que linguiste, alors là, c'est juste précisément qu'est-ce qui dans le langage, il y a toute forme de comique. C'est un peu la difficulté d'intervenir dans un colloque comme celui-ci, c'est que c'est une difficulté pour un scientifique, c'est de déterminer son objet. Faut-il encore savoir sur quoi on va travailler avant de se mettre à travailler et d'y appliquer des méthodes? Mais le comique est quelque chose qui est indiscernable, qui est indéfinissable. Même sur l'intitulé, on voit ici l'humour et le rire dans tous ces éclats. On est à des niveaux différents. Est-ce que l'humour est générique? Est-ce que tout ce qui fait rire est humoristique? Et est-ce que tout ce qui fait rire est comique, par ailleurs, n'est-ce pas ? Il y a des rires qui ne sont pas du tout comiques. Les anthropologues nous en parlaient hier, n'est-ce pas ? Les rires de malaise, les rires de complaisance, les rires de bonne volonté, n'est-ce pas ? Il y a une multitude de rires dans notre vie quotidienne qui ne relèvent pas du phénomène comique. Et il y a des comiques qui ne font pas rire. Hein. Vous pouvez lire quelque chose d'extrêmement comique chez vous et de ne pas rire à cette littérature-là. Donc il faut être. Moi j'ajoute un troisième terme qui serait plutôt le risible. C'est pas le comique, c'est ce qui a été mis intentionnellement en œuvre, notamment par un texte, mais également par un jeu scénique. On l'a vu hier lors de la performance de cette comédienne. N'est-ce pas? Donc, est comique tout ce qui a été mis en œuvre intentionnellement pour provoquer des rires. Mais on sait aussi que dans certaines circonstances, il y a des choses qui nous font rire, et dans d'autres circonstances, les mêmes choses ne nous font pas rire. Et que parfois, il y a des effets pervers, c'est dans les circonstances où on ne devrait pas rire qu'on le fait, et vice-versa. D'accord ? Donc, c'est, en tant que scientifique, c'est extrêmement difficile d'avoir cet objet qui est indéfinissable, insaisissable, voire, comme je l'ai dit tout à l'heure, paradoxal et inexplicable, puisque dès qu'on l'explique, il n'est plus risible. Donc, c'est un peu frustrant. Bon, je m'arrête là, mais c'est cette difficulté-là que... Oui.
Alors, c'est indéfinissable, donc l'enjeu, il faut quand même réussir à le saisir. Et vous, c'est vraiment une grosse partie de votre travail. Pour entrer dans les ficelles de la fabrique, pour essayer de faire suite, en fait, à savoir comment est-ce que votre intérêt, quand vous étiez plus jeune pour le comique, et puis vos prédispositions à l'humour vont se matérialiser. Alors, vous orientez vers différents exercices, puisque, bon, évidemment, écrire pour la radio, le théâtre, la télévision implique des pratiques qui sont variées. Alors, quelle différence est-ce que vous faites entre ces exercices et est-ce que vous avez des techniques pour réussir à les réaliser, soit dans un temps imparti, soit... Voilà. Comment vous faites, très concrètement ?
Comme tu veux. Vas-y. Moi ? D'accord. Bon, eh bien, ce qui est... En fait, moi, quand j'étais jeune, la première chose qui m'a fait rigoler... Enfin, le premier souvenir que j'ai d'un rapport, moi, avec le rire, c'est intimement lié à la mélodie. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu la sensation que l'humour était une mélodie. Donc je dis ça parce que, par exemple, la première fois que j'ai rigolé dans ma vie, je pense que ça devait être parce que j'ai vu un sketch de Muriel Robin. Et je me suis dit, tiens, il y a un décès. Non, ça va. Je me suis dit... ça, on ne sait pas si c'est rigolo de mourir en plein colloque. Et
Non, je vais laisser dans le silence.
je sais plus ce que je disais, du coup, tiens. Ah oui, Muriel Robin. Voilà, j'ai eu l'impression que c'était une mélodie qui n'existait pas dans la vie, mais qui n'existait qu'au spectacle et qui me faisait rire. Non, je t'en prie. Et donc, du coup, j'ai l'impression que moi, entre radio, télé, théâtre, de toute façon, il n'y a pas tellement de nuances ou de variations de ficelles ou de techniques, puisque ça n'est que moi. Et mon rythme et ma mélodie à moi. Donc j'ai l'impression que c'est ce rythme-là et cette mélodie que je décline parfois en 3 minutes, parfois sans le corps, parce que c'est la radio, ou sur 1h30 au théâtre. J'ai l'impression que c'est la même chose. Sauf que au théâtre, ça dure 1h30. Les gens sont là. Il y a comme une espèce de communion. Étrange qui se fait, il y a comme une ivresse qui naît avec la longueur, et j'ai l'impression que au théâtre c'est une ivresse longue que moi je fais naître, je distille chez les gens comme ça sur 1h30, qui fait qu'au bout d'un moment on est tous un peu grisés et on rit différemment. On rit, je peux me permettre d'autres mélodies, d'autres ruptures, je peux me permettre des couillonneries que je ne pourrais pas me permettre sinon, des choses idiotes, des choses pipi-caca, des choses parce que l'ivresse nous a envahis. Alors qu'à la radio et la télévision, comme c'est 3 minutes, comme c'est pas le soir, comme c'est à une heure où peut-être les gens mangent ou les gens se réveillent, machin, l'ivresse n'est pas du tout la même. J'ai l'impression que c'est plutôt des shots de vodka qu'il faut donner parce qu'il faut que ça aille plus vite et que ça monte plus rapidement au cerveau. Sinon, le rire est moins facile à venir. Voilà. C'est la seule nuance que j'ai l'impression de faire dans mon travail entre les trois médias. Voilà.
Bah écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je voulais juste revenir sur ce que vous disiez sur le fait qu'il y a des tonnes de rires différents. Effectivement, c'est difficile de définir le rire parce qu'il y en a plein de grandes variations. Mais quand même, ce qu'on peut dire sur tous les rires, c'est que c'est à chaque fois une sanction. Et même quand c'est quelque chose qu'on dit pour faire rire et qui ne fait pas rire l'auditoire, c'est aussi une sanction. Donc, c'est dans tous les cas cette sanction. Alors après, la façon dont on le fabrique, effectivement, je commence à voir que je travaille vraiment différemment en fonction de ce qui m'est demandé. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que quand on a une heure et quart sur scène, que les gens viennent nous voir spécifiquement, c'est tout à fait différent. On n'est pas obligé d'aller chercher tout de suite le rire parce qu'on présuppose un accord et une volonté de la part des gens de rentrer dans nos univers. Et donc, du coup, on n'est pas obligé, on peut y aller de manière beaucoup plus fine. Quand on fait, par exemple, une première partie, là, je fais des premières parties cette semaine, je me suis retrouvée dans cette situation où les gens ne viennent pas vous voir. Donc, il faut littéralement violer les gens dès la première blague. C'est dur d'ailleurs de se remettre à faire ça parce qu'en fait c'est ce qu'il y a de moins agréable parce qu'on va tout de suite chercher les gens à un endroit où c'est un peu facile, on a un peu l'impression de se prostituer quand même.
C'est pour ça, parce que le terme de violer est quand même assez fort.
Oui, parce qu'il faut, il faut tout de suite produire un effet fort. Et l'effet fort, il va forcément être... il va forcément friser, soit la provoque, soit un sujet un peu facile. Après, en fonction des gens, quelque chose de facile, en tout cas. Et par ailleurs, je suis en train de convertir en bouquin mon premier spectacle. Et là, encore une fois, c'est quelque chose de totalement différent. Enfin, c'est une éditrice qui m'avait approchée l'année dernière pour publier le texte de mon spectacle. Et j'avais dit oui, bien sûr, pas de problème. Et puis moi, je croyais que j'allais lui filer le texte et que c'était bon. Et puis en fait, je relis le truc et puis je m'aperçois que c'est illisible. C'est illisible. Et tant au niveau formel, au sens où ça ne se lit pas, le langage parlé ne se lit pas, même s'il est soutenu, ça ne se lit pas et ce n'est pas drôle à la lecture. Et par ailleurs, tous les moments où je flirte un peu avec le 18e degré à l'écrit, c'est très, très, très compliqué. C'est-à-dire que j'ai eu mon spectacle, j'avais juste l'impression de lire un discours homophobe, raciste. Alors qu'évidemment, que justement, quand je suis sur scène, c'est l'effet inverse qui est recherché. Voilà.
Et comment tu fais du coup pour que ça reste le même spectacle Comment tu réécris là? Tu réécris beaucoup?
J'ai réécrit énormément. C'est-à-dire que c'est plus du tout le texte du spectacle en fait. Ah ouais.
J'ai écrit un roman en fait.
Voilà, j'ai écrit un roman. Ouais.
Vous voulez peut-être intervenir sur cette question d'adaptation du coup?
Oui, concernant l'humour, comme vous dites, c'est une agression, c'est ça? Sur tout cet aspect-là. Là, il faut peut-être replacer parce qu'une nouvelle fois ici. Depuis le début, me semble-t-il, on parle d'un certain type d'humour, l'humour, peut-être dans le cadre de l'humour et de la société, mais un humour assez agressif, corrosif, engagé d'une manière ou d'une autre. Mais il y a beaucoup d'autres formes d'humour également. Il y a le plaisir de la jouissance, le bébé qui est dans son berceau. J'imagine que l'avez fait comme tout le monde. Le bébé dans son berceau, il a un plaisir notamment de jouer avec les mots ou avec les sons, sa capacité de maîtriser le langage et de produire des sons. Et donc, il y a un plaisir de la maîtrise également. La maîtrise du langage, la maîtrise du discours provoque un rire de contentement, le rire de la simple complicité. Les anthropologues d'hier nous en ont fait écouter quelques échantillons. Donc, parce que nous parlons surtout de votre métier actuel, France en France, actuellement. Mais si on veut replacer le rire d'une manière générale, eh bien il y a de multiples. C'est ça la difficulté avec le rire, c'est qu'il est paradoxal. Il est à la fois gentil, à la fois méchant. Il est à la fois universel, il est à la fois très particulier. Il est à la fois très très inoffensif. On dit que c'est pour rire. Je peux me montrer xénophobe. On en a parlé tout à l'heure. Je peux me montrer xénophobe, raciste, mais c'est pour rire. D'accord. Mais il peut aussi se montrer très dangereux. N'oubliez pas que Platon, dans sa République, voulait l'écarter. Donc, il ne fallait pas attendre les islamistes pour ça, n'est-ce pas? Déjà, Platon voulait écarter le rire de sa République. Donc, le rire est très, très paradoxal. C'est un fourre-tout. Il peut servir à tout, probablement parce qu'à un moment donné, il est une zone de... ou un moment, ou une zone de non-lieu, où il est permis de tout faire, mais qui peut être récupéré d'une manière ou d'une autre dans d'autres circonstances. C'est simplement pour ça, pour dire qu'on envisage peut-être qu'une seule forme de comique maintenant, mais qu'il y en a de multiples formes. Et même savoir si c'est, on nous parle de la même chose, c'est la question. Est-ce que c'est parce que ça déclenche de rire que ça doit être traité dans un même colloque? Est-ce qu'on ne doit pas consacrer un colloque à l'ironie, un colloque au grotesque, un colloque au sarcasme, un colloque à la blague, un colloque à l'histoire drôle? Enfin, je veux dire...
Alors, toutes ces formes sont extrêmement variées. Du coup, ça nous renvoie au problème des classifications du comique. Et d'ailleurs, ce problème, il intervient dans les pratiques également, puisque une fois qu'on est repéré dans un certain type d'humour, là, pour le coup, il y a tout un réseau qui s'ouvre, mais tout un réseau qui se ferme. Vous avez beaucoup travaillé sur les classifications. Est-ce que vous pourriez expliciter la manière dont on peut penser et essayer de classer ces différents types de comiques, au moins par rapport au discours?
Je reviens ici avec ma casquette de linguiste. Effectivement, c'est intéressant de savoir, évidemment, aussi bien dans l'oral qu'à l'écrit, de voir effectivement quels sont les stimuli linguistiques qui peuvent déclencher le rire. Hein. Et il y a toute une littérature concernant les procédés comiques. Et on a de temps en temps, on impute la répétition, l'exagération, la litote ou d'autres figures de rhétorique qui auraient la propriété de déclencher les rires. Mais c'est chaque fois, ces analyses-là débouchent sur... sont assez frustrantes, puisqu'on se rend compte qu'il y a des répétitions qui ne sont pas comiques, il y a des exagérations qui ne sont pas comiques, il y a des litotes qui ne sont pas comiques. Donc, il n'y a pas de figure de rhétorique qui soit propre au comique. On les trouve dans d'autres choses. Et je crois que c'était Cohen qui a écrit un article sur les rapports entre le comique et le poétique, et voire le tragique. C'est-à-dire que le comique et le poétique recourent aux mêmes figures de style. Et parfois même, vous avez des auteurs comme des comiques comme De Vos, par exemple, qui sont à la limite entre le poétique et le comique. Des textes qui, eux, sont lisibles parce qu'on voit qu'ils jouent sur les deux. Et parfois, quand on écoute des enregistrements de Vos, on se rend compte que le public ne se demande s'il faut rire ou s'il faut se taire, tellement la figure est poétique. Donc, on joue sur les deux niveaux. Et on se rend compte, après ces études de rhétorique, qu'il n'y a pas véritablement de figure qui soit propre au comique ou propre à certains comiques, si le grotesque, ou bon, etc. Mais... Et on voit aussi que l'humour joue aussi avec le bien et le beau. Vous vous souvenez de Hugo qui voulait absolument, dans sa nouvelle poétique dramatique, voulait absolument qu'on associe dans le grotesque, n'est-ce pas, le comique et le tragique. Hein, donc pour dire qu'ils ne s'opposent pas l'un à l'autre. Hein. Et l'humour noir associe aussi le grave, si pas le tragique, avec le comique. Donc le comique est un genre de la limite. Hein, et je pense même, c'est le cas avec Alphonse Allais. Hein, les comiques, même vous sur scène, le comique est expérimental. On juge des limites, si vous voulez, des limites entre le tragique et le comique, le poétique et ce qui ne l'est pas, entre
le ridicule,
ce qui est acceptable et n'est pas acceptable. Et les comiques, il y a des comiques qui se font une spécialité de travailler sur le fil du rasoir. Et parfois, ils tombent du mauvais côté. Des gens comme Bedos, qu'on a cité tout à l'heure, a dû parfois rectifier le tir parce qu'ils se rendaient compte qu'ils jouaient tellement sur le fil du rasoir que les gens n'ont pas compris.
Je vais repartir sur ce côté expérimental, puisque vous dites on arrive au plateau, donc il y a une manière de sentir les spectateurs, de sentir comment ça réagit. Et est-ce que ça, vous avez quand même des trucs ou des codes ou des facilités où vous vous dites ça c'est sûr, ça va marcher?
Ben non, mais si seulement. Moi, j'ai l'impression que c'est de toute façon à chaque fois une tentative. C'est à chaque fois un risque. C'est pour ça qu'en fait on est toujours, même il y a pas seulement, on est toujours à une frontière, et j'ai l'impression que c'est ça qui est rigolo. J'ai l'impression que c'est aussi ce numéro d'équilibrisme qui peut déclencher le rire aussi, parce que il y a un peu de risque, il y a un peu d'angoisse, il y a un peu de, et puis comme au cirque, c'est rigolo, quoi, quelqu'un qui se tient sur un pied, c'est plus rigolo que sur deux pieds. Bon, mais qu'est-ce que je veux dire, oui, non, j'ai l'impression qu'il y a pas, enfin moi, je suis stupéfait d'un soir sur l'autre, par exemple, au théâtre. J'ai l'impression d'être le même bonhomme. Je n'ai pas l'impression d'avoir vieilli ou d'avoir changé d'une nuit à l'autre. Les salles, quand la salle est pleine, je me dis, bon, c'est quand même, ça reste des gens qui forment un groupe de 230 personnes. Et je suis stupéfait de voir que d'un soir à l'autre, le spectacle est différent. C'est-à-dire que des choses qui marchent ne marchent plus le lendemain, alors que j'ai l'impression d'avoir répété la même mécanique, la même mélodie, de m'être engagé autant. Des choses vont marcher à Angoulême et pas marcher à Dax. Des choses vont marcher le lundi et pas marcher le mardi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a... Et tant mieux, parce que c'est ça qui nous, c'est ça qui nous met en péril et qui nous presque nous donne la garantie que ça, qu'on fait la bonne recherche et que ça, que même s'il faut passer par des échecs, ça va marcher. Mais s'il y avait une recette, j'ai l'impression que plus personne ne serait rigolo. Je dis rigolo trop.
Je ferais volontiers un parallèle avec l'enseignement. Parce que l'enseignement, ça marche exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'on peut arriver avec des méthodes, des préceptes, et se dire ça va marcher. Et puis, en fait, selon le groupe, ça passe ou ça passe pas. Et ça va être sur place, au moment où on est en contact direct avec le groupe, que l'alchimie va se produire. Et pareillement, moi, ce semestre, j'avais deux cours, exactement le même, deux groupes du même cours, qui se succédaient. Et... Donc j'avais préparé la même chose pour les deux groupes et en fait c'était pas du tout le même cours parce que le public n'était pas le même, enfin le groupe n'était pas le même, c'était théoriquement le même public puisque c'était le même niveau, les mêmes options, etc. Mais voilà, il y a cette espèce de mystère et ça c'est propre, je pense, à la forme interactive l'aspect performance de vos métiers et au contact avec un public, et ça en tant qu'enseignant on ressent exactement la même chose, et l'humour dans l'enseignement ça c'est pareil.
Donc, peut-être que plutôt que de chercher ce qui peut vraiment fonctionner, c'est on peut chercher comment est-ce qu'on récupère les bits qu'on vient de faire, voilà, éventuellement.
Ouais, et ça peut-être qu'il y a des astuces, je sais pas, toi tu as, Blanche, tu as des non mais est-ce que
non par rapport au bide.
Non mais oui.
Moi j'ai pas osé, merci Vincent.
En tant que spécialiste du bide.
Non.
C'est vrai que j'ai beaucoup bossé. J'ai pas mal de techniques à donner, je te les donnerai pas.
Tu as écrit un ouvrage qui est très consulté en bibliothèque, je crois, sur le. Sur le...
Non, c'est vrai que moi j'ai résolu le problème pour de vrai en plus par défaut, c'est-à-dire que j'arrive vraiment à blanc sur scène. J'arrive pas en souriant, j'arrive pas. Voilà. Je livre une version assez désenchantée du monde. J'ai pas ce problème d'avoir l'impression d'avoir fait une super blague et d'être très content et d'avoir personne qui rit, en fait. Parce qu'il y a bien des fois où voilà, ça rit pas à ce que je dis. Et ça ne produit pas une rupture vraiment dans le discours parce que de toute façon, je suis complètement neurasthénique sur scène. Donc, c'est pas très grave, en fait. Hein. Mais par contre, c'est vrai que ce truc qui est totalement mystérieux, de savoir si, voilà, un soir avec le même texte, on a l'impression d'être chef d'orchestre et c'est extraordinaire. Et, c'est, voilà. Et le lendemain, pas du tout. Et on vit ça très, très mal de l'intérieur. Et on sent que la moitié des trucs sont passés, même pas forcément en termes de rire, mais en termes même d'idées, d'émotions. Parce qu'il y a aussi d'émotions. C'est ce qu'il y a de très excitant, le fait de ne pas savoir si ça va marcher. C'est aussi ce qu'il y a de totalement désespérant, parce que ça veut dire qu'on peut absolument avoir aucune technique pour se préparer à une performance. On peut se masser les pieds toute la journée à l'huile de calendula. Ça ne sert à rien. Hein. En fait, non, si la seule chose que j'ai repérée comme technique, mais qui n'est pas une technique, c'est le fait d'être joyeux juste avant de monter sur scène.
Ah oui, voilà, j'allais dire ça.
Si on est joyeux, genre, ne serait-ce que 5 minutes avant de monter, je sais pas, il y a une forte probabilité pour que ça se passe bien.
Mm. Ouais. Ouais, et quand je jouais des trucs pas drôles aussi, je m'étais dit, en fait, jouer, ça n'est que le bonheur de jouer. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de techniques de jeu, à part... si je devais, par exemple, avoir une école et monter ma pédagogie, il n'y aurait qu'un cours, ça s'appellerait « Soyez heureux », je pense. Parce que être heureux de jouer fait déjà le travail, fait beaucoup de travail. Voilà, j'ai l'impression.
Oui, ça me fait penser à une discussion qu'on a eue tout à l'heure ou lors de la conférence de M. Chardon. C'est la confusion entre personne et personnage, et même entre auteur... personnage et personne derrière. Et je crois que c'est une des particularités du comic, c'est qu'il faut, si on veut avoir une complicité avec le public, eh bien, il faut qu'il y ait une confusion entre... enfin, il faut que les gens aient la conviction que ce n'est pas un comédien qui joue, mais c'est quelqu'un qui parle de sa vie. Et je pense que ça, c'est un peu le propre du comic, c'est cette complicité on est obligé de passer par le jeu. Bien sûr, il y a des spectacles, des comédies qui font rire, mais le one-man show associe justement étroitement ces trois personnages-là. Et il n'y a rien de plus... Je suppose qu'il y a des comédiens qui le font, je sais bien qu'il y a des comédiens qui le font systématiquement, des comics, c'est de rire de ses propres blagues. C'est comme si le comédien, et comme si le comique était tellement comique que lui-même, Gad Elmaleh l'utilise régulièrement, lui-même, il ne peut pas résister à l'humour de ses propres blagues. Et ça fait doublement rire le public. Il y a un genre de solidarité entre le public, et comme si c'était un réel événement, comme si c'était la première fois que cette pièce était jouée ou que ce sketch était tenu, et c'est un genre de grande connivence. C'est pour ça que le rire est très, très communicatif dans ce cas-là.
Ouais. Oui, mais ça, c'est une...
C'est un code.
C'est un code, c'est une arnaque.
Oui, bien sûr. Ouais. Enfin,
c'est une arnaque totale.
Oui, mais
c'est
ça
vraiment,
marche.
C'est, je dis un truc, je fais « Ah, mais je suis con
». Mais ça, c'est un marche, ça.
Mais ça marche, c'est vrai. Ça marche,
mais... Mais le fou rire, quand le comédien lui-même se met à rire, d'où le succès actuellement des bêtisiers, hein. Les bêtisiers qu'on voit à la fin de chaque année, n'est-ce pas, sur que ce soit du journal télévisé, que ce soit de la météo, que ce soit d'autres émissions, quand les gens eux-mêmes ne peuvent pas résister au rire, hein, c'est ça la folie du rire, quelque part, hein, eh bien, le rire est communicatif et les gens n'apprécient rien de plus que ça, hein, quand les gens se lâchent, hein, ce moment de récréation où on ne peut plus se tenir, même le comédien, dont c'est le métier pourtant, eh bien, lui-même se laisse aller, quoi.
Yann-Maï, vous voulez...
Non, je pense qu'il y a quand même, des procédés qui, qui existent. Et ne serait-ce que justement le contraste entre l'apparence, la façon de dire les choses et ce que je dis, etc. La notion de contraste, en général, marche très bien. Oui. C'est quelque chose... Parce qu'il y a l'effet de surprise. Et arriver à produire un effet de surprise... Alors, ce n'est pas forcément une surprise pour soi, parce qu'on a calculé le contraste. Mais pour le spectateur ou pour le lecteur, cet effet de surprise, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'obtenir. Et c'est vrai que le contraste, par exemple, on le trouve dans le burlesque. Et le burlesque, c'est un procédé qui fonctionne très bien et qu'on entend régulièrement, enfin, qui est utilisé régulièrement par les humoristes. Et en particulier par les humoristes politiques, le burlesque consiste à... Marmontel définissait le burlesque comme le contraste du grand au petit. Donc le contraste du grand au petit, vous prenez un grand, vous lui faites faire quelque chose de petit, ou parler comme un poissonnier, et ça fait rire. C'est la surprise de l'incongruité entre les deux, ou l'inverse. Et donc l'humoriste politique, je vais pas parler d'actualité, mais on se rappelle très bien, il y a quelques années, les Guignols montraient Jacques Chirac en jogging chez lui. Et Jacques Chirac, le président de la République, sortant en jogging chez lui, bon, ça, tout de suite, vous avez le grand et le petit, et ça marche très bien. Et d'ailleurs, c'était un comique qui n'était pas forcément moqueur, puisque ça lui a servi, je crois, ça lui a donné une bonne image, finalement, proche des gens, etc. Mais la simple image du président de la République en jogging, en fait, c'est un procédé. C'est le grand et le petit ensemble. Voilà.
Vas-y, puis après.
Il y a un truc que je trouve intéressant. Il y a un truc que je trouve, le reste non. Le reste vraiment j'ai pas aimé. Mais... non, mais c'est parce que t'as dit le mot surprise et en fait, je sais pas, il faudrait étudier biologiquement ce que c'est que rigoler, mais j'ai l'impression que de me faire taper sur les doigts. Mais j'ai l'impression que c'est une surprise. J'ai l'impression que c'est le même mécanisme que la surprise. On rit parce que on est surpris. On rit parce qu'on s'attendait pas à rire. Et en fait, c'est ça.
C'est comme le paix, en fait.
C'est comme le paix. Ouais.
Il y a des mauvaises surprises.
Non, on ne rit pas à toutes les surprises, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de voisin quand même. Et ouais. Du coup, c'est pour ça que j'ai du mal avec l'idée. J'ai l'impression que c'est pour ça que j'ai du mal avec le terme d'humoriste, parce que j'ai l'impression que ça ne tient pas debout de venir voir un spectacle rigolo. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est perdu d'avance. J'ai l'impression que c'est une posture qui est bizarre. Parce que ça veut dire qu'on vient et qu'on s'attend à rire et que du coup, l'effet de surprise déjà est un petit peu perdu. Et moi, je l'ai senti quand j'ai commencé à jouer mon spectacle, quand j'allais le jouer dans des cafés-théâtres où vraiment les gens venaient rigoler. Et bien, il y avait quelque chose qui... Il y avait comme un quiproquo qui se faisait, quelque chose qui soit basculait dans beaucoup, beaucoup de rire, même trop, où je me disais, c'est pas si drôle, je vous jure, franchement. Ou alors quelque chose de assez rapidement, c'est rigolo, hein, ah ouais, mais c'est pas rigolo tout le temps là. Et du coup, ça faisait une mésentente. Et pourquoi je dis ça?
Je crois que c'est pour me donner une très bonne transition, parce que justement quand vous écrivez,
c'était pour faire une très bonne transition que je disais ça, absolument.
Quand vous composez vos spectacles, vos chroniques radio et vos films, vous avez quand même en tête un spectateur ou idéal ou une spectatrice idéale. Donc, est-ce que vous arrivez à cerner, voilà, ce spectateur idéal? Bien, oui, après ça se produit ou pas, mais pour qui, pourquoi, pour qui est-ce que vous écrivez?
Moi, je crois que j'écris surtout pour quelqu'un qui me connaîtrait pas, en fait. Et à qui, je devrais faire une première impression. Et du coup, c'est cette liberté de choisir totalement la première impression que je vais donner. C'est ça.
C'est beau, c'est trop beau, parce que des fois, c'est ça que tu veux reconvoquer. Dans l'amour, par exemple, avec une amoureuse ou un amoureux, des fois, tu passes ton temps à essayer de reconvoquer la première impression que tu as faite. Et du coup, c'est le pouvoir que tu as, toi, en montant sur scène, ou qu'on a, c'est vrai, de se dire, eh ben, moi, ce soir, je suis à mon premier encart. Oui. Ouais. Et c'est marrant, parce que moi, j'allais répondre à la question, ça, j'allais répondre. Moi, j'ai l'impression de... Mon spectateur ou ma spectatrice idéale, ce serait quelqu'un avec lequel j'ai rendez-vous pour la première fois, mais où je sais que j'ai une volonté de vivre une histoire d'amour longue. Ou pas longue.
Ou juste rigolote.
Ou un petit coup de... Voilà, quoi. Ou juste rigolote.
Je vous pose cette question puisque ça engage énormément d'éléments derrière, sur votre manière de composer, c'est-à-dire que est-ce qu'il y aura l'intention donc, de provoquer une succession de secousses, par exemple, en ayant recours à une accumulation de vannes? Non, pas comme ça.
En allant secouer les gens.
Non, pas du tout. Mais en accumulant les vannes. Est-ce qu'au contraire, ce que tu commençais à évoquer sur une espèce d'invitation d'arriver à blanc au plateau, donc quel est votre... quels sont vos procédés, on va dire, ou vos ficelles pour essayer d'accrocher ce spectateur idéal?
Redis.
Alors.
j'ai besoin de réfléchir un petit peu parce que c'est une bonne question.
Ouais. Je vais citer un comédien, un jeune humoriste qui perce dans le milieu, qui s'appelle Vincent de Dienne, qui a dit que lorsqu'il a eu ses premiers échanges avec plusieurs producteurs, donc il a dit, on ne me parlait pas du tout de mise en scène ou de théâtre, on me parlait d'efficacité. Donc comment est-ce qu'on gère une efficacité comique au plateau, donc dans un rapport sur une projection de réception?
Oui, il y a un producteur qui m'avait dit, il faut rajouter 25 rires. Voilà. Je te produis si tu rajoutes 25 rires. Bon. Et je me suis dit, d'accord, alors je vais les... D'accord, mais en fait, c'est pas si débile que ça. Enfin, c'est-à-dire que à un moment, je sentais, par exemple, moi, je sentais que le début de mon spectacle était un peu faible, et je savais que pour le fortifier, il fallait rajouter effectivement des blagues, quoi. À un moment, l'efficacité, elle passe aussi par la blague. Enfin, moi, mais comment dire? C'est la différence que je fais entre la vanne et la blague. Moi, j'ai l'impression que la vanne, c'est quelque chose d'un peu déconnecté, de quelque chose qu'on pourrait s'échanger de l'un à l'autre, qui pourrait aller là, mais qui pourrait se mettre à la fin et tout ça. Et la blague, ou la blague, ça fait comme rigolo, ça paraît un peu, hein, une bonne blague. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui... En fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait confiance aux gens. Enfin, comment dire? C'est parce que faire rire les gens, c'est aussi une manière de les impliquer, de dire je compte sur vous. Si vous rigolez, c'est que vous me donnez la réplique, c'est que vous êtes là, et c'est que je vous ai pas tout mâché, je vous ai donné l'occasion de... Moi, j'aime bien commencer une blague et que les gens la finissent. Et que leur rire soit la fin de la blague. J'aime pas faire toute la blague et que ça rit. J'aime bien faire... et voilà, vous avez compris, vous finissez la blague. Donc, encore une fois, pourquoi je dis ça ? Parce que voilà, l'efficacité, en fait... C'est une arme, la vanne, dont moi j'essaye de me servir avec parcimonie. Voilà.
C'est intéressant le terme d'efficacité. Est-ce qu'il y a d'autres types d'expressions d'art où il est question d'efficacité ? Est-ce qu'on dit d'un romancier que c'est un romancier efficace ? On dit d'un vendeur de voiture qu'il est efficace, par contre. Hein. Mais ici, on envisage la performance comique en termes d'efficacité, pas en d'autres termes. Il faut faire rire, on peut même comptabiliser les rires. Et c'est ce que j'appellerais un art performatif. Et il faut que ça ait des effets, voire des effets physiologiques. On pourrait le comparer, par exemple, à la pornographie, par exemple, ou à l'art culinaire. Hein. Mais bon, ça doit avoir des effets physiologiques, hein. ça doit provoquer les rires, et pas seulement les applaudissements, mais les rires. Et ça, c'est assez intéressant, ça dévalue à la fois... La performance, je pense, hein, dans la mesure où il faut que ce soit efficace, mais ça stimule probablement la créativité, non ?
Ouais, mais en même temps, moi je trouve que c'est tellement difficile. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Blanche, mais moi je trouve que c'est tellement difficile d'être rigolo. Non, mais que je trouve qu'en fait, avant, je pouvais penser un petit peu que c'était d'évaluer, enfin, que c'était un sous-genre ou que c'était quelque chose de qu'il y avait une noblesse dans la tragédie qu'il n'y avait pas dans la comédie. Mais maintenant, je pense l'inverse. Je pense que les gens qui, moi, me font rire dans la vie, que ce soit mes copains ou que ce soit les artistes, sont devenus mes héros, vraiment. Donc, ils accomplissent quelque chose que je trouve vraiment... vraiment fort. Et je repense à ça aussi dans les romans. Des fois, y a, par exemple, dans le drame ou dans le mélodrame, il est question d'efficacité, j'ai l'impression. Parfois,
oui, dans beaucoup de spectacles, spectacles sportifs,
ou ce qu'on appelait le drame larmoyant au 19e siècle, vous direz que c'était beau, j'ai beaucoup pleuré. Hein,
ouais. Alors, j'aimerais à présent poser la question à Blanche, donc toujours sur cette idée de projection. Donc ça, c'est une pratique qui se fait très très peu au théâtre, ou alors ça se fait par les médiateurs culturels ou par les directeurs de lieux, c'est d'imposer une limite d'âge pour les spectacles. Comment est-ce que... je vais d'abord rappeler, le spectacle, donc, il a été interdit, c'est vous qui avez décidé que ce serait interdit au moins de 17 ans. Et comment est-ce qu'on prend ce type de décision ? Et est-ce que d'abord on écrit et après on se dit on va interdire, ou est-ce qu'il y a déjà du coup toute une restriction de ce public en amont ? Dans quel sens est-ce que ça s'est fait en fait ?
Ah non, ça a d'abord été empirique, c'est-à-dire que je me suis déjà retrouvée dans des salles avec un public très familial, avec des enfants au premier rang, des mamans, des parents, et à être extrêmement mal à l'aise de jouer ce que j'avais à jouer, et à me dire c'est pas possible parce que au pire ils s'emmerdent, enfin au mieux ils s'emmerdent, au pire ils sont traumatisés, enfin c'est atroce. Et là je me suis dit non, il faut que je sache à qui je vais parler. Et je décide de m'adresser uniquement à un public adulte et consentant. Quoi.
Alors, on peut peut-être préciser, pardon, du coup, de quel type de spectacle, quels thèmes sont abordés, et puis comment ils sont abordés, ce qui amène cette limite.
C'est un spectacle où je parle de ma vie, donc globalement... globalement, c'est pas terrible. J'essaye de parler beaucoup de... des angoisses qu'on peut tous avoir, des angoisses très humaines, existentielles. Je parle beaucoup de la mort, je parle beaucoup de la souffrance, du malheur, du cul, de ce qui constitue la condition humaine en fait. Hein, je m'adresse vraiment pas à des enfants je pense que je vais assez loin dans des trucs un peu... dans une vision un peu tragique de l'existence, en forçant le trait, évidemment, que je n'ai pas envie de communiquer à des êtres purs. Et puis voilà, pareil pour le versant pornographique, ils ont tout le temps de découvrir tout ça, quoi.
Alors, pour les publics, là, pour le coup, on va complètement changer de siècle. C'est une question qui va s'adresser à Yen Mai, puisque, donc, pour le contemporain, donc, les effets, je parle encore d'efficacité, vous arrivez à les avoir assez directement. Ça ne veut pas dire qu'on les saisit. Là encore, il faut les construire. Néanmoins, aller chercher un spectateur du XVIIe ou XVIIIe siècle aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué.
Ouais, j'ai essayé, mais c'est vrai que j'ai eu un peu de mal.
Ils n'ont pas répondu.
Ils n'ont pas répondu à mes
Alors,
mails.
Comment savoir lorsqu'on s'appuie, alors que ce soit un texte ou enfin, une forme comique plus ancienne ou alors une forme qui est très loin culturellement, géographiquement, comment est-ce qu'on peut faire au niveau de la recherche pour savoir que ça fait rire ou pas, que
Alors,
c'est comique?
Il y a deux cas de figure, soit on sait, soit on ne sait pas. Dans le cas où on ne sait pas, on ne peut que formuler des hypothèses. Voilà. Dans le cas où on sait, on le sait par deux moyens principaux, soit parce qu'à l'intérieur de la fiction, il y a des personnages qui rient, donc ce que j'appelle le rire diégétique, donc à l'intérieur de l'histoire. Dans Don Quichotte, par exemple, vous avez, il arrive telle chose, et puis le personnage se met à éclater de rire. Et donc, là, on se dit, bon, bah, apparemment, on trouve ça drôle, quoi, ce qui se passe. Bon, c'est souvent des scènes de comédie à l'intérieur du roman. Hein. Sur l'effet du roman lui-même, Don Quichotte, comment on sait qu'il faisait rire ? Parce qu'on a des témoignages de l'époque, donc des gens qui écrivent, qui disent, oh, tenez, je vous envoie un livre qui m'a fait énormément rire, etc. Et puis, on a un témoignage très, très connu, en fait, enfin, connu par les spécialistes, mais qui est le roi en personne, on raconte, c'est une anecdote, le roi en personne, se penchant par la fenêtre de son palais, le roi d'Espagne, voit un type assis sous un arbre qui se tape sur la cuisse comme ça de rire, mais vraiment, il rit aux éclats, il est mort de rire. Et donc le roi fait remarquer à sa compagnie, ah, ce type-là, soit il est complètement fou, soit il est en train de lire Don Quichotte. Et vérification faite, il était en train de lire Don Quichotte. Bon, ça, c'est une anecdote qu'on trouve un petit peu partout, je ne sais pas si elle est vraie, mais bon, il y a des témoignages, voilà, qui témoignent de l'aspect comique d'une œuvre. Alors, d'une œuvre en général, est-ce que tel passage précisément faisait rire, etc. Ça, généralement, on n'a pas de certitude. Parfois, la question peut amener des réflexions sérieuses et puis un peu extrêmes. Par exemple, Nabokov commentant Don Quichotte pour ses étudiants américains disait que Don Quichotte faisait rire à l'époque, mais que en fait, la plupart des choses qui faisaient rire à l'époque maintenant sont considérées comme cruelles. Et lui, il utilise le mot de cruauté de Cervantes à l'égard de son personnage. Donc, il y a une sorte de constat d'écart maximal entre quelque chose qui faisait rire à un moment donné, ce qui est vrai que c'est l'humiliation du personnage de Don Quichotte en personne, qui tombe, qui passe son temps à se prendre des coups de bâton, etc. Cette humiliation du personnage fait rire, mais nous fait rire encore aujourd'hui, je pense, même si on n'est plus compatissant. et j'irai pas jusqu'à dire que c'est de la cruauté, parce que le personnage est fou. Et de toute façon, le personnage étant fou, on peut se moquer de lui. Il y a aussi une série de cadres qu'il faut prendre en compte sur de quoi on riait. C'est vrai qu'il y a des choses sans doute qui faisaient beaucoup rire au XVIIe siècle qui nous font moins rire de nos jours. Mais la scatologie, par exemple, on en rit encore aujourd'hui. Chez Rabelais, ça faisait beaucoup rire. Les pots de chambre chez Scarron, etc. Bon, on trouve tout cela et on peut faire une hypothèse de continuité de choses qui font encore rire aujourd'hui, qui faisaient sans doute déjà rire à l'époque, si l'auteur a pensé utile de l'intégrer dans son œuvre. Hein, voilà.
Merci pour cette précision donc sur les publics. Puisque vous travaillez tous les deux sur différents supports, on pourrait peut-être se poser la question de l'adaptation, à savoir comment est-ce qu'on décline, comment est-ce qu'on adapte un humour donc, qui vous est très personnel lorsque vous vous dirigez vers la télévision, vers la radio, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des contraintes formelles, mais il y a, voilà, qu'est-ce que vous-même vous engagez de votre type d'humour sur les différents supports ?
Je sais pas. Non. Bah, c'est sûr, il faudrait déjà pouvoir définir son propre type d'humour. J'aurais du mal encore à le définir. Je pense que je suis encore en formation, on va dire. Enfin, je suis pas encore. Non, je sais. C'est trop difficile. Il faudrait savoir. Je sais pas quel type d'humour je pratique vraiment, en fait.
Ou pour le formuler autrement, c'est quelle part de peut-être quelle part de soi est-ce qu'on transfère en fait sur une scène de théâtre. C'est-à-dire quel est l'élément invariant qui va faire qu'on vous reconnaît dans tous vos différents travaux.
Ah. j'en ai aucune idée. Ça, mais non, mais ça c'est toute la question de l'image, voilà, de l'image qu'on donne aux gens. C'est absolument impossible à savoir. Enfin, les premières fois, on a commencé à me proposer des rôles au cinéma. À chaque fois, on m'appelait pour des rôles de toxico, de paumé, de dépressive profonde, etc. Alors, ce qui est pas le cas, enfin, c'est pas. Je suis une fille joyeuse, en fait. Hein. Je suis pleine de vie, sportive. et c'était très bizarre. Je me disais, c'est marrant, les gens me voient vraiment comme ça, mais. Donc en fait, c'est toute la question, oui, de l'image qu'on renvoie aux gens, oui. Qui n'est pas du tout forcément l'image qu'on a de soi.
Oui, tout à fait. Mais en même temps, il y a quand même une conscience de ce personnage que vous créez au plateau.
Oui, forcément. Il y a une conscience de ça. Et d'ailleurs, il faut faire attention à ne pas partir dans le cabotinage de ce personnage-là, une fois qu'on a repéré un peu ce qu'on pouvait être un peu... Donc ça serait plutôt l'inverse. Alors je répondrais plutôt en disant non... je m'applique plutôt à essayer de pas trop mettre ça de manière volontaire et systématique quand je suis en train de travailler, parce que là on tombe dans le cabotinage. Ouais. Je dis ça comme ça, mais c'est pas...
Direction de là-bas, c'est plus loin.
C'est par là.
Alors, est-ce que Vincent, tu dessines un personnage, donc un humoriste qui se décline donc à la radio sur les planches, ou est-ce que c'est des choses vraiment différentes ?
Ben non, moi j'ai l'impression que ça se décline vraiment. J'ai l'impression que c'est que moi que je peux pas faire autre chose que, parce que c'est quand même ma voix, c'est mon rythme. Enfin, on a tous un rythme dans la vie même. Enfin, j'imagine Marie, vous feriez un colloque de la même manière. Ailleurs, avec cette voix, avec ce rythme, avec cet humour. Non, mais. Bah, si. Non, mais du coup, comme. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, j'ai l'impression que. Moi, je me suis pas dit sur France Inter, par exemple, je vais être. Cette partie de moi, je me suis pas dit je vais être la partie de gauche et un télo ou je sais pas quoi. Pareil sur Canal, je me suis dit la meilleure des choses que j'ai à faire, c'est de rester vraiment très connecté à ce que je suis, et je pense souvent à mon spectacle quand je vais à Inter ou à Canal, en me disant mon spectacle c'est une heure et demie, c'est vraiment moi dans toutes mes dimensions. C'est à ce bonhomme-là qu'il faut que je sois fidèle à la radio et à la télé. Parce que sinon, ça veut dire qu'on s'adresse à... Sylvie Joly, elle disait, je m'adresse au premier de la classe, les autres ont qu'à suivre. Et j'aime bien ça. J'aime bien l'idée que si les gens... De ne pas aller vers les gens tellement. De rester soi, là où on est chez nous, c'est-à-dire dans mon spectacle ou dans mon texte à la radio ou dans mon texte à la télé, et que les gens viendront ou pas. Mais en tout cas, voilà, de pas vendre quelque chose.
J'avais lu une critique qui parlait de stand-up vérité et éventuellement même d'un spectacle autoportrait à propos de vos travaux. Donc ça correspond
complètement. Oui, mais parce qu'en plus, comme j'avais pas prévu moi de faire cet exercice-là, j'avais pas prévu de faire des trucs rigolos. Oh merde, putain, ça m'échappe. Pardon. Du coup, je connais, je comment dire ? Hein ? Ah non, c'est autre chose, c'est une autre conversation. C'est un autre colloque. Non, je sais. Oui, voilà. Je suis acteur, et c'est cet acteur que je mets au service de mon texte à moi, ou du texte d'Hervé Guibert quand je joue Hervé Guibert, ou du texte de voilà.
Alors, même si c'est très difficile de définir l'humour qu'on est en train de provoquer ou d'essayer de provoquer, est-ce qu'on pourrait revenir, c'est une phrase que vous aviez donnée, Blanche, vous avez dit que la vulgarité, c'est de ne pas avoir conscience de l'effet qu'on va produire sur les gens, parce que là, pour le coup, ça donne quand même un certain cadre aussi de ce qu'on se permet ou de ce qu'on ne se permet pas par rapport au plateau. Qu'est-ce que vous pourriez dire donc, sur cette vulgarité?
C'est un petit peu la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. C'est le fait que j'ai besoin de savoir à qui je m'adresse. Et à partir du moment où je sais à qui je m'adresse, on peut parler de tout. Comme dans la vie, on peut parler de tout, en fait. C'est ça, c'est tout. C'est le gros mot, c'est pas ça qui définit la vulgarité pour moi. C'est vraiment un truc de ce que tu disais sur le fait de rester sincère en fait avec soi et avec ce qu'on a envie de dire. Il y a aucune raison de s'empêcher de dire quoi que ce soit à partir du moment où on est sincère avec une intuition qu'on a eue à un moment. Par contre, il faut faire attention quand on fait une blague pour faire une blague ou une vanne, plutôt, ce qu'on disait tout à l'heure. Là, effectivement, on peut être dans un truc qui n'est pas très sincère et faut éviter. Là. Mais à partir du moment où on est sincère avec une intuition que tout le monde peut avoir eue, et c'est pour ça que ça va être drôle, parce qu'en fait, on parle à la conscience collective, en fait. Sauf que nous, on a cette inclinaison particulière qui fait qu'on a plus tendance à faire confiance à nos intuitions plutôt qu'aux faits réels, par pure vanité d'ailleurs, hein, je pense, mais on a ce truc de plus être... et du coup, on s'accroche à des intuitions, mais parce que tout le monde a le sentiment parfois que le monde est absurde, injuste, idiot, sauf que, voilà, il faut vaquer dans le réel, quoi, quand même. Et sauf que nous, on est un peu rigolo. Et du coup, on s'applique à faire beaucoup plus confiance à ces intuitions de bizarrerie qui interviennent dans le monde. Et c'est ça qu'on amène sur un plateau, en fait. C'est juste ce moment où on a eu l'impression que le monde s'est grippé. On veut mettre le doigt dessus, on veut mettre une lumière dessus, et on arrive et on dit, vous avez vu quand même, là c'était grippé, là c'est, et qu'on parle de quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est ça qu'on amène sur un plateau. Alors après, qu'on parle de cul, de politique, il n'y a rien de vulgaire à partir du moment où on amène un point de vue sincère sur un sujet et qu'on sait à qui on parle.
Je ramenais sur cette notion de vulgarité, puisque pour le coup, c'est une définition qu'on ne retrouve pas dans les recherches universitaires, où le vulgaire, en tout cas sur les études sur le comique, va renvoyer donc à Rabelais et puis aux études de Bakhtin. Donc c'est quelque chose qui est repéré en opposition au grossier. Mais cette conscience de l'autre dans la vulgarité me paraît vraiment, vraiment juste. Et du coup, ça pose une question. Alors, c'est ce qu'Olivier Mongin note par rapport à ce qu'on pourrait appeler le bon comique. Ce serait un comique qui opère un déplacement. Est-ce que vous-même, vous pensez ça, quand vous parlez par exemple de décalage, de sincérité, c'est-à-dire quelque chose qui déplace, qui fait un pas de côté? Est-ce que vous vous retrouvez sur ce point et comment est-ce que ça se matérialise dans vos pratiques? Et puis...
Moi, par exemple, ça peut se matérialiser en termes de champ lexical, en termes de vocabulaire. Par exemple, si je veux parler d'un ordinateur, là, moi, je dis ça parce que j'ai... je vais chercher le mot qui serait un peu à côté d'ordinateur. Peut-être parce que je me dis, c'est ça qui va créer le décalage. Les gens vont penser, pourquoi il n'a pas dit ordinateur? Non, j'ai dit l'autre mot. Ça m'amuse toujours quand je finis un texte, par exemple une chronique, je regarde tous les mots et je me dis, est-ce qu'il n'y en a pas un à côté qui produirait le même sens, mais qui serait peut-être qui aurait un autre ou qui appartiendrait à un autre niveau de langue ou tout ça. Le décalage, moi je le pense en termes de vocabulaire principalement.
Moi, je pense plus en termes d'un agencement autre en fait du réel tout d'un coup, c'est plus comme une espèce de synthèse qui serait un peu pathologique, c'est-à-dire que tout d'un coup on prend un objet et puis spontanément il y a ton cerveau qui met en relation cet objet avec d'autres objets soit contemporains, enfin soit qui ont un rapport qui sont en train de se passer en même temps, ou alors qui ont un rapport dans le champ, enfin dans de thématique ou quoi, et du coup ça forme un objet qui prend un sens qui éclaire le premier objet en fait. Je ne sais pas si je suis très claire. Parce que tout d'un coup, on met en relation des objets qui normalement ne devraient pas être mis en relation, et du coup ça éclaire différemment le voilà.
Oui, ben on en a parlé tout à l'heure, un des grands principes du comique, hein, par la répétition, etc. C'était l'incongruité, hein, l'élément qui en dehors du système, comme disait Bergson. Donc tout ce qui est comique, tout ce qui ne participe pas à un système, que ce soit un système linguistique avec les jeux de mots, que ce soit un système de la vie sociale, que ce soit un système politique, que ce soit un système idéologique, mais tout ce qui est un peu à l'écart provoque le rire, et aussi c'est aussi le caractère très créatif du comique. Le comique est extrêmement créatif, c'est pour ça que j'en faisais allusion tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit que le discours scientifique et le discours comique ne s'entendaient comme l'eau et le feu, mais en fait, pas toujours, puisque c'est Koestler qui a écrit dans un ouvrage qui s'appelle Le cri d'Archimède, où il compare le poétique, le comique et le scientifique. Et il fait part de beaucoup d'expériences et de témoignages de scientifiques, n'est-ce pas, qui, notamment dans le cadre de remue-ménage, qu'on appelle en français le brainstorming, eh bien, les scientifiques peuvent éclater de rire parce qu'ils ont trouvé la solution à un problème. Et cette solution est en dehors du système préalable. Parce qu'aussi, les scientifiques, il ne faut pas croire, ils sont extrêmement créatifs. N'est-ce pas? Et les scientifiques parviennent à progresser en échappant au système précédent et en créant bien sûr un nouveau système. Et c'est pour ça que Koestler, dans cet ouvrage-là, fait la comparaison entre l'esprit comique et l'esprit scientifique, qui procèdent tous les deux par décalage, à des intentions différentes. Mais je pense que, et c'est pour ça aussi, on peut reparler d'Alphonse Allais, qui est un grand écrivain de la langue française, de la littérature, parce que justement, il fait preuve d'une liberté, n'est-ce pas, que le comique lui accorde et que d'autres écrivains moins sérieux n'ont pas. Donc, voilà.
Avant qu'on ouvre la discussion avec la salle, Yann Maï, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce déplacement?
Oui, non, la question du déplacement, ben, c'est précisément le principe de la parodie. Hein, puisque la parodie reprend quelque chose qui est déjà connu et le décale légèrement. Et finalement, ton procédé de penser à un mot et de chercher celui qui pourrait être légèrement décalé, c'est une sorte d'auto-parodie anticipée, je dirais. Hein, on recherche ça quand on est spectateur ou lecteur de parodie, c'est je reconnais, oui, là, donc ça crée un système de reconnaissance, et puis pouf! C'est décalé, donc il y a la dimension créative, puisque ça crée un nouveau sens, et puis la dimension comique par la surprise, et tous ces procédés-là qui entrent en jeu.
Merci. Alors, on va donc ouvrir la discussion à vous tous. Vous voyez, c'est une discussion qui est très ouverte.
Merci beaucoup à vous tous. En fait, ma question va être pour Blanche, mais j'aimerais bien que Vincent intervienne également. J'aimerais avoir votre sentiment, comment vous vivez la hiérarchie du statut entre les humoristes. Et je m'explique, et là, M. Charadeau va dire, oui, les Canadiens parlent toujours par anecdote, mais oui, je vous confirme ce que vous me disiez hier. Blanche, je t'ai vu il y a 2 ans au Couscous Comedy Show à Montréal, suivi du Zoo Fest. Dans la même semaine. Et au Couscous, tu as été la dernière à passer. Donc, selon les codes, c'était toi l'artiste au top, c'était celle à qui on devait s'attendre, qui nous fasse rire le plus de la soirée. Et bien entendu, tu as tout arraché, c'était extraordinaire. Au point même où j'ai appelé des copains et j'ai dit, il faut absolument que vous veniez la voir, elle est à ZooFest, on va la voir dans quelques jours. À ZooFest, tu es en duo, mais au lieu de passer en dernier, tu passes en premier. Et là, on s'est demandé, mais attends, là, ça ne marche pas, c'est elle la meilleure des deux. Pourquoi est-ce qu'elle est en premier au lieu d'être en deuxième? Donc, j'aimerais savoir un peu comment cette négociation-là du statut se joue, surtout dans une soirée où il y a plusieurs artistes, et comment vous la vivez aussi. Parce qu'en plus, j'ai pas besoin de le faire remarquer, en tant qu'artiste, tu es très féminine quand même, tu te présentes sur scène avec la robe rouge et tout ça. Alors que justement, en plus, les femmes ont un petit peu plus de difficultés à percer un milieu qui est quand même assez misogyne. Donc, pour une fois, on se dit « Hey, go girl! » C'est elle qui finit la soirée, puis le lendemain, hein? Non, elle est deuxième. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'aimerais t'entendre là-dessus.
Ah ben écoute, oui, c'est vrai, c'est une question super intéressante. D'abord, j'adore l'accent québécois, je veux dire. J'adore ça, j'ai une passion pour l'accent québécois. Effectivement, c'est très bizarre ce truc de hiérarchie des comiques. Moi, j'ai disparu de la scène pendant 5 ans, en fait, après le Jamel Comedy Club, qui date d'il y a 10 ans, un truc comme ça. Maintenant, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ta question, j'en parle pas, mais j'ai disparu de la scène pendant 5 ans, j'ai fait autre chose, et je suis revenue après. Et quand je suis revenue, en fait, j'ai commencé à faire des petits comedy clubs pour roder des passages de ce qu'allait être mon premier spectacle, en fait, que je n'avais pas vraiment fait. J'avais pas une heure de maternité et elle avant, donc c'était mon premier spectacle. Et je me suis aperçue que dans les comedy clubs, on me faisait passer en dernier, quoi, que j'étais en fait une espèce de grand-mère respectable du stand-up, alors que j'avais disparu pendant 5 ans. Donc, ce qui était totalement arbitraire en plus, parce que j'avais même pas encore prouvé quoi que ce soit. Donc, il y a quand même une question d'âge qui s'est posée aussi, parce que dans les comedy clubs aujourd'hui, enfin, c'est vrai, je me suis retrouvée à partager la scène avec des gamins de 20 ans. Donc forcément, il y avait quand même quelque chose de l'ordre de... J'étais une dame, quoi, quand j'ai repris. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc implicite, d'ailleurs, quand on arrive sur les plateaux et que qu'on est celui dont on a le plus entendu parler, on est d'office passé, mis au dernier... en dernier sur la liste. Et ce que tu as vu à Montréal, c'était j'étais avec Youssoufa, qui était vraiment un petit garçon. Enfin, je veux dire, il a 17 ans. Et c'est vrai que la question s'est posée, en fait, parce que après l'énergie youssoufesque, il est très street et très bondissant sur scène. Quand j'arrivais, moi, derrière, les gens étaient un peu fatigués. C'était mieux en termes d'énergie pour amener le public. Quand on fait un 30-30, il faut quand même réfléchir aussi à une espèce de rampe de lancement. Là, c'était quand même mieux dans ce sens-là, plutôt que d'avoir quelqu'un qui, hyper énergique. Et puis après, moi, qui suis quand même plus dans quelque chose de très posé, quoi. Enfin, la parole, voilà. Merci.
Ça m'a fait penser à un truc. Ça me fait penser qu'il y a une injustice énorme aussi quand on te connaît et quand on te connaît pas. Enfin, ça change toute la mécanique du rire. C'est-à-dire, comme l'inquiétude est l'ennemi du rire, c'est-à-dire que tu ne ris pas si tu es inquiet, j'ai l'impression, dans des situations de peur, ou alors c'est d'autres choses qui rentrent en jeu. Ouais. Mais moi, par exemple, quand j'ai commencé, mon spectacle était le même, mais on ne me connaissait pas, on ne m'avait jamais vu à la télé ou entendu à la radio, machin, tout ça. Et les gens venaient, comme je suis produit par Laurent Ruquier, les gens se doutaient bien que ça devait être rigolo. Pourtant, l'affiche était pas, l'affiche indiquait pas « One Man Show, mon Dieu, ce que vous allez rigoler !» Mais les gens venaient en pensant qu'ils allaient rigoler. Et comme ils ne me connaissaient pas, ils prenaient en charge, eux, mon péril de réussir ou de ne pas réussir. Donc, je me suis retrouvé devant des salles qui faisaient « Vas-y, oh là là, j'espère que... Hein » Je sais pas pour l'instant. Voilà. Et ce qui bloque complètement le rire. Et en fait, il y avait 20 minutes où les gens ne riaient pas énormément. Et après, une heure où les gens... Je mettais 20 minutes à les rassurer en disant « Vous inquiétez pas, ça va, ça va. » Et du coup, à la fin le rire était tronqué. Le rire était tronqué tout le long parce qu'à la fin, les gens riaient pour me rembourser l'absence de rire du début du spectacle. Et à la fin, les applaudissements, c'était des applaudissements de « c'était bien » et de « on est désolé pour le début, on avait un peu peur pour toi ». Voilà. Donc, ça me fait penser à ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi une injustice énorme d'être celui que les gens connaissent le plus par rapport à quelqu'un qu'on connaît moins. Voilà. Et voilà.
On va prendre une autre question, s'il y en a.
Utiliser le micro parce qu'on enregistre.
Est-ce que ça aide d'être intelligent pour faire rire ? Enfin, je pense parce que je vous vois là.
Je vais te répondre moi parce que.
Moi j'ai pas compris la question, pardon.
L'autre est trop rigolo, il va pas savoir répondre.
C'est un intuitif.
Ben alors, ça c'est une bonne question ça. Est-ce qu'on aurait des exemples de types complètement abrutis qui sont rigolos ?
Oui.
Oui.
Involontairement peut-être.
Mais je ne sais pas si c'est l'objet de les citer.
Il y a les rires de connivence, évidemment, hein, ce qu'on appelle le personal joke. On fait des rires de connivence. Et alors on a du plaisir à être intelligent. Alors qu'eux n'ont pas ri, nous on rit de la même blague. Et bien nous on est intelligent, on les domine par rapport à eux qui n'ont pas la même intelligence que nous et qui ne peuvent pas rire des mêmes histoires. Donc je pense qu'on joue sur ce genre de choses, en tout cas de se sentir plus intelligent de ceux qui ne rient pas. Hein.
Excusez-moi d'être un petit peu insistant, mais c'est parce qu'en fait, il y a des gens qui regardent sur Internet et ils vous entendent pas.
Ah oui. Non, mais je pensais pas intelligence en termes d'exclusion des gens, mais le rire est aussi un peu la manipulation de celui qui écoute. Et donc, les gens les plus intelligents peuvent peut-être mieux prévoir ce qui va provoquer l'émotion du rire chez l'autre. C'est pour ça. Ouais. En fait, j'ai donné la réponse. Ouais,
ce qui est sûr, c'est que... Ce qui est sûr, c'est que quand on fait une blague, j'ai l'impression qu'on espère avoir en face de nous le même niveau d'intelligence que le niveau de la blague qu'on est en train de faire. Et on compte sur ça. C'est-à-dire que donc après être intelligent, pas être intelligent, c'est question de définir. Voilà. Mais il faut être donc plus intelligible en fait. C'est-à-dire savoir qu'on est sur un registre d'intelligence commune. Voilà. Des fois, ça tombe à plat parce qu'on n'a pas su être intelligible. Mais je pense que c'est plus est-ce qu'on est capable de se recréer l'univers mental des autres ? C'était ça.
Et puis aussi, il y a quelque chose, l'intelligence du plateau, c'est une espèce d'autre intelligence qui est que quand tu joues, tu as plein de cerveaux. Tu as tous tes cerveaux qui sont actionnés en même temps et donc tu as aussi un cerveau qui essaie de capter les énergies de la salle, machin. Et moi, il y a une intelligence que j'aime bien en tant que spectateur voir sur scène et puis que j'essaye d'avoir, c'est de dire, oulala, là je sens par exemple qu'à droite, il y a beaucoup de gens de France Inter qui rigolent comme ça, qui vont faire comme ça un petit peu un rire intelligent. Non, mais... Et eux, j'aime bien déjouer leur intelligence à eux en me disant, alors là, dans 10 minutes, il y a une blague vraiment potache et je vais essayer que ce soit toi qu'elle fasse rire le plus. Parce que t'es parti pour être dans un rire, tu t'es mis sur des rails et moi, je vais te faire dérailler. Ça, c'est une intelligence de plateau, un peu instinctive comme ça, que j'aime bien avoir.
Et après, c'est vrai que c'est de la manipulation, parce que c'est vrai qu'à certains moments, et notamment dans des moments qu'on a vécu récemment, la manipulation est très, très, très facile. C'est-à-dire que moi, je me rappelle avoir fait un plateau 3 jours après les attentats. 3 jours après l'attentat, en plateau de comique, on disait Daesh est méchant. Hein. Et là, la salle entière, on sentait une espèce de besoin de rire atroce, complètement robotique et vraiment en disant n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Et là, c'est des moments où on sent que ça peut être dangereux parce qu'on peut vraiment manipuler. Ah ouais, on peut enflammer des gens avec des trucs très.
Il va falloir qu'on conclue cette table ronde. Est-ce qu'on prend une dernière question, Nelly ? Oui, une dernière question. Il y a madame devant.
Et il y a monsieur là-bas.
Ah ben on a dit une.
Oui, cette question, comment dirais-je, concerne le linguiste. Parce que j'ai lu dans un livre que j'ai trouvé ici, récemment, qui s'appelle... Et ça vous fait rire ? Et c'est, l'auteur s'appelle Alain Woodrow. Il est de père anglais et de mère française. Et donc, je donne quelques détails parce que j'ai pris des notes. Donc, je voulais vous poser à cette personne. Alors, on a déterminé une partie du cerveau qui est concernée dans le rire. Je ne sais pas si vous connaissez cela, monsieur. En tout cas, cette partie du cerveau, sous anesthésie locale, les chercheurs ont identifié une zone de 4 cm carrés à la limite inférieure de l'aire dite motrice supplémentaire, je crois que j'ai bien écrit, et qui a trait au langage et qui concerne le processus du langage dans le cerveau. Donc elles sont voisines, les deux zones, et le rire et le langage. Donc je voudrais savoir un peu si vous avez travaillé sur cette question.
No comments. Concernant la place du cerveau et la taille le nombre de neurones impliqués dans le problème, non. Mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, le rire apparaît très tôt. Hein, que l'enfant, un bébé jubile de jouer. Le troisième. Donc le bébé jubile, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, de jouer avec les mots. Et Freud qui s'est beaucoup intéressé à ça dans les mots d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, eh bien, fait remonter. Selon Freud, il y a deux moteurs du comique. Hein, donc, c'est la transgression de l'agressivité et la sexualité. Hein, des choses auxquelles on ne peut pas se livrer quand on est un adulte après 17 ans. Hein, un adulte responsable, bon, on restreint et son agressivité et soit sa sexualité dans le meilleur des cas. Eh bien, Freud disait que nous retrouvons avec le rire, hein, le plaisir qu'on avait quand on était dans son berceau, et de jouer avec, oui, et de jouer avec les mots. D'accord ? On retrouve ce plaisir de former des mots sans que cela provoque, sans en toute impunité, je dirais. Hein, on accepte du bébé de jouer avec les mots, ce qu'on n'accepte pas d'un adulte. Donc, oui, je pense que le comique est étroitement associé avec l'apprentissage du langage. Enfin, le comique qu'on nous envisageons maintenant. Oui, oui. Mais concernant les synapses et les neurones dont vous parliez tout à l'heure, je ne peux pas vous répondre. Oui. D'accord.
Merci. Donc, une dernière question rapide, s'il vous plaît.
Oui, bonjour. En fait, moi, je voulais simplement vous demander, c'est peut-être plus une question pour Blanche et Vincent, c'est comment percer dans l'humour, tout simplement.
Alors, je ne conseillerais pas la Black & Decker, qui est un petit peu difficile à, à manipuler.
Comment
très
percer
lourde.
Dans l'humour ? Je ne comprends pas. comment
t'as... Tu as des conseils ?
Hein ?
Tu as des conseils ?
Oh non,
hein.
J'en ai aucun, je sais pas. Moi, j'ai eu du bol. Non, moi, je me... posteriori, ouais, c'est ça, posteriori, je me dis que moi, j'ai... Ça, c'est en train de bien se passer. Je crois que je touche du, je sais pas quoi, du bois. Parce que j'avais pas prévu du tout d'avoir de l'audience. J'ai ouvert un fichier Word. C'est-à-dire, je me suis pas dit, je vais faire un spectacle, je vais faire carrière. J'ai ouvert un fichier Word et du coup, j'y ai couché vraiment... honnêtement tout ce que j'avais envie de dire sans penser ni à recettes ni à qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui se fait, voilà. Donc et c'est ça, et après c'est la première chose qu'on m'a dit, t'es malin toi, hein, t'es malin parce que t'as fait un truc qui se fait pas en ce moment, c'est tu fais bon, alors que j'avais, ouais, ben c'est clair ce que je raconte. Non mais voilà, j'ai fait vraiment ce qui me venait, donc c'est
non,
un peu nul.
Je pense surtout qu'on est trop, donc c'est pas la peine de venir. Tu veux pas aller faire le djihad plutôt? C'est plus rigolo, hein. C'est alors, plus facile de percer dans le...
Très bonne parole de conclusion, je crois. Non, d'accord, c'est une conclusion tout à fait sommaire. Je voulais vraiment vous remercier d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous aussi d'y avoir participé par votre écoute et puis vos interventions. Deux petites choses à vous signaler. À l'intérieur du programme, il va y avoir deux moments performatifs. Tout à l'heure, à 18h, Blanche nous proposera une intervention, on va l'appeler comme ça. Et tout de suite, c'est Vincent qui...
oui. Qui va nous chanter une chanson.
Exactement. Donc Vincent, c'est...
Donc là, je fais mon petit... Voilà.
Bon, alors,
c'est un extrait de... C'est un voilà, je vais faire un extrait de mon spectacle. Bon, mais c'est horrible de faire ça juste après le truc. C'est cool. Maintenant qu'on a bien dit, dis donc, moi, comment je fais pour être rigolo ? Vas-y, montre-nous.